Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez pour que 2020 soit une excellente année. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Avoir la vie devant soi, des projets plein la tête, de nombreuses expressions associées à la jeunesse évoquent l'avenir, les projets, les chemins qui se dessinent, cette jeunesse âge des possibles qui espère. Mais cette façon d'envisager les lendemains est-elle encore d'actualité quand on entend parler sans arrêt du manque de débouchés, de la précarité de l'emploi, de la crise du logement et puis bien sûr des fortes inquiétudes qui concernent le climat, l'environnement, des doutes qui concernent aussi l'intime, l'amour, l'amitié. Lorsque l'on subit certaines pressions de la part de l'entourage, de la famille. Alors comment les jeunes font-ils face ? Confiance, optimisme ou inquiétude et désillusion ? Combativité ou résignation ? Sérénité ou colère ? Comment réussir à surmonter l'incertitude du quotidien lorsque l'on vient tout juste de traverser soi-même la période plutôt déstabilisante de l'adolescence ? Ce monde rend-il davantage les jeunes vulnérables au risque d'addiction, de dépression ? Comment se préserver sans se couper du monde, sans se couper de ses rêves? Sur toutes ces questions, nous attendons vos témoignages, vos questions, vos réactions. Appelez-nous 33 1 84 22 75 75 ou laissez-nous vos messages sur la page Facebook de l'émission. Quel avenir pour les jeunes dans une société en crise? Comment reprendre confiance? Avec nous, en direct, Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et comme chaque mois dans Priorité Santé pour ces émissions où l'on ouvre le micro aux jeunes, on vous retrouve. Adja Idriss Abba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante, présidente du Parlement des enfants, présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Et en fin d'émission, on va retrouver notre série « Accueillir son bébé » consacrée à la santé néonatale en Afrique subsaharienne. Reportage de Charlie Dupiau aujourd'hui, « Prématurité et soins kangourous au Togo ».
Priorité santé sur RFI.
Alors on va bien sûr essayer au maximum d'éviter les généralités, les clichés. On en entend beaucoup, surtout de la part de la vieille génération quand ils parlent des jeunes. En tout cas, il y a des expressions qui peuvent poser question, interroger Anne-Victoire Rousselet, comme par exemple un mot que l'on lit dans la presse, hein, moi j'y mets des guillemets, génération sacrifiée, être jeune dans un pays ou un monde en crise, il y a même eu des expressions consacrées, les jeunes qui tiennent les murs, ceux qui s'ennuient, avoir le seum. Qu'est-ce que ça change justement d'être dans un contexte comme ça d'incertitude quand on est soi-même en train de se construire?
Eh bien, c'est vrai que les jeunes sont à la fois une force vive et des personnes vulnérables en construction, donc il y a une fragilité, et donc le contexte fragilisant augmente cette fragilité, cette vulnérabilité, augmente les questionnements, limite les réponses, et donc la difficulté pour les jeunes aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver les ressources en soi, et les choses qui vont leur permettre de se construire et de se structurer, indépendamment des perspectives qui peuvent être floues.
Et pour le thérapeute, la thérapeute que vous êtes, il y a toujours la prise en considération de ce contexte, hein. On soigne la personne, mais dans un monde spécifique.
Bien sûr. Bien sûr. Et donc, il est pris en compte ce contexte et on va pas leur vendre des choses qu'on n'a pas ou leur faire croire que les choses peuvent s'améliorer indépendamment de leur action. La question, c'est trouver sa place aujourd'hui, maintenant, et pouvoir se projeter au moins dans quelque chose d'un temps court.
Alors, est-ce qu'on a du recul par rapport aux générations précédentes, y compris quand on s'occupe de santé, de santé mentale? Est-ce qu'on peut dire que c'était, par exemple, Anne-Victoire Rousselet, plus facile d'être jeune pour d'autres générations, hein, sans pour autant sombrer dans la rengaine, c'était mieux avant?
Je ne suis pas sûre que ce soit simple d'être jeune, en fait. Mm-hmm. En réalité, si je pense aux jeunes que je vois, si je pense à ma propre jeunesse et aux jeunesses de gens qui m'en ont témoigné dans le cadre de la psychothérapie, je pense que la jeunesse, c'est un moment difficile, contrairement à ce qu'on nous dit, que là, on devrait être bien parce que c'est simple, parce qu'on n'a pas de soucis.
On les envie, nous, quand on est plus vieux, quand c'est derrière nous, on les envie, et pourtant, c'est compliqué. Mm-hmm.
Je pense qu'on envie un peu leur énergie et le fait que tout est à définir, mais je crois pas qu'on envie les questionnements, le mal-être, aussi le rapport au corps qui est très perturbé, qui commence à se construire, le rapport à l'autre, les comportements sociaux. Tout ça est encore très fragile à un âge où on vous dit que vous rentrez dans l'âge adulte, mais finalement, rien n'est structuré. La vingtaine est quand même une période particulièrement difficile quand on ne sait pas où on veut aller.
Avec un vrai paradoxe, on demande aux jeunes de prendre des décisions, alors qu'un certain nombre de décisions qu'ils vont prendre, eh bien, il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de suite. Par exemple, choisir un métier, mais il y a du chômage. Avoir envie de quitter la maison, mais il n'y a pas de logement. Tout ça, c'est compliqué, tous ces paradoxes.
Bien sûr, c'est des injonctions qui sont un petit peu ingérables et qui précipitent évidemment de l'anxiété, de l'angoisse, des stratégies qui sont parfois pas toujours adaptées parce qu'on veut fuir la réalité qui est impossible à gérer. Donc en effet, c'est particulièrement compliqué et ces injonctions qui viennent des tranches d'âge supérieures sont souvent un peu déconnectées un peu de la réalité en essayant de projeter notre propre expérience sur le jeune.
Adja Idriss Abba, je me tourne vers vous maintenant, la jeune de ce studio, avec tous les auditeurs qu'on aura tout à l'heure bien sûr en ligne. Est-ce que c'est un sujet entre vous justement, inquiétude, incertitude, ou c'est toujours l'inverse, les projets, trop de projets, ça dépend des personnes, ou vous avez l'impression qu'il y a un sentiment commun au niveau de la génération ?
En fait, moi je dirais aujourd'hui, c'est plus que jamais une évidence, mais surtout une urgence pour nous les jeunes d'en parler. C'est un sujet super important où on se sent confus par rapport à la manière dont les crises dans le monde sont en train de se succéder et que la jeunesse est en train de perdre l'espoir. Donc, il faut en parler. Et moi, je trouve que les jeunes vraiment doivent se créer des opportunités eux-mêmes au lieu d'attendre afin qu'on les trouve des opportunités et de souvent créer, et de souvent crier par-ci, par-là, dire que se victimiser et dire qu'il n'y a pas de place pour nous, les jeunes. Et je pense que c'est une évidence, surtout avec notre thérapeute qui est là aujourd'hui et on va répondre à plusieurs questions ensemble et on va écouter les jeunes et je pense que c'est vraiment évident qu'on en parle.
Mais les inquiétudes qui s'expriment, c'est plutôt par rapport à ce qui se passe, on va dire, à la maison, dans le pays ou dans le monde où finalement ces jeunes sont aussi des citoyens comme les autres mais aussi des individus comme les autres et il y a le double défi de gérer l'intime, la famille et en même temps de gérer l'avenir du monde. Comment ça se passe? Comment on est déchiré entre tout ça?
Exactement, parce que là si je parle de la confusion, c'est à partir du moment où on dit que la jeunesse c'est vraiment l'avenir du pays, de la famille, de la nation et là tu as du mal à te positionner au moment où par exemple tu termines tes études, tu as ton diplôme, tu as toute la pression sociale, à la fois culturelle derrière toi et de la famille. Et au même moment aussi, par exemple, il n'y a pas de perspective. Là où tu vis, dans ton état, il n'y a pas de perspective pour les jeunes. Et là, tu es confus. Au moment où on croit en toi et tout l'espoir, c'est sur toi. Et de l'autre côté, tu te tournes, tu te dis « Ah, je n'ai pas ma place ici ». Donc, il faut que le discours change de côté. Et c'est un véritable souci que nous avons pour la jeunesse africaine spécifiquement parce que aujourd'hui tu vas avoir un jeune qui est diplômé en droit mais il n'a pas sa place parce qu'il y a moins de cabinets. Il va dire bon, vaut mieux, pourquoi j'ai choisi le droit? Parce que je vois pas ma place dans cet état-là. Je me dis que je me suis perdue, si je savais je n'allais pas le faire. Et il va choisir autre chose où il n'a pas sa passion. Donc c'est vraiment une question d'éducation qui est là et qui doit être une éducation de base. Et c'est un souci pour nous, les jeunes. On se sent confus et on a besoin vraiment de plus d'explications et de plus de...
D'accompagnement
afin d'avoir des solutions à nos différents questionnements.
Alors, confusion, face à cela, justement, tout le travail de rétablissement de la confiance, Anne-Victoire Rousselet, est-ce que tout ça peut avoir un impact très cru en termes de santé mentale, par exemple, en poussant ces jeunes, dans cette période bizarre de l'adolescence, vers des comportements à risque, je pense en particulier vers la dépendance, ou des prises de danger sur le plan physique?
Oui, bien sûr, bien sûr. Le manque de perspective, la difficulté à se projeter peut engendrer non seulement des idées négatives, de dévalorisation, perte d'espoir et donc de dépression, et ou alors de fuite de la réalité. Alors on va penser évidemment aux toxiques, hein, à ces périodes d'expériences nouvelles aussi, où on cherche les limites de son corps. Donc, toute forme de consommation, de drogue, qui vont être variables en fonction des régions où on se trouve, donc, et en fonction de ce qu'on peut trouver sur place. Et puis chez nous, particulièrement, les écrans, hein, qui sont quand même une forme de lobotomie, à une période où, finalement, à ce moment-là, on coupe sa pensée et on n'est absolument pas ni dans l'ici et maintenant, ni dans la projection. Et donc, vraiment, de façon très classique, un des symptômes de la dépression, c'est l'absence de projection. Donc, dans cette difficulté qu'ont les jeunes à se projeter, on a clairement un facteur de dépression.
Adja Idrissaba, ça vous est arrivé, là, c'est un témoignage personnel, dans l'entourage, justement, de voir un peu comme ça des jeunes à la dérive, et par le biais associatif, par le biais, justement, de ces relations au sein des organisations jeunesse, d'aller aider, d'aller tendre la main à ces jeunes? Par rapport à des jeunes en Guinée qui étaient en situation de détresse et justement que vous avez pu aider, non pas par, comme avec Anne-Victoire Rousselet, que l'on évoque la psychothérapie, mais par le lien, par l'amitié, par la fraternité.
Exactement, ça existe chez nous. Par exemple, la dernière fois, il y a 6 mois de cela, on a travaillé avec des jeunes qui avaient pris la voie migratoire. Et quand, parce qu'ils n'avaient plus d'espoir dans le pays. Et quand ils ont décidé de partir, ils ont été ramenés encore dans le pays. Ils sont allés jusqu'au Maroc, ils ont souffert énormément. Après, ils sont revenus, mais dans l'espoir quand même d'avoir une autre voie de réussite. Et cette voie de réussite pour eux, ils ont intégré une association, et dans cette association-là, ils viennent en aide à la société, c'est-à-dire qu'ils nettoient, parce que quand on a créé, on a besoin des fois des activités, dans des activités on a besoin des jeunes volontaires, ils viennent avec nous, on travaille ensemble, et là, on partage des conseils avec eux, on leur demande d'entreprendre, c'est-à-dire le peu d'argent qu'ils ont avec eux, s'ils prennent ça pour entreprendre, ils vont devenir des millionnaires, même si ne pas en fait, arrêter la voie migratoire pour une autre voie. Donc, voici le rôle des associations, c'est de calmer un peu l'esprit des jeunes vers les autres pays à travers l'écran qu'on voit, c'est-à-dire on voit la belle vie en Europe, par exemple, lorsqu'on prend la Guinée, ici, en France, nous sommes le 3e pays demandeur d'asile. Donc, c'est pour dire que la jeunesse est en train de perdre espoir, mais quand ils reviennent chez nous, il y a quand même des petites initiatives, même si c'est pas tellement développé que ça, mais quand même, ça existe un tout petit peu, mais il faut encore développer.
On a bien parlé de la fuite par les psychotropes, mais il y a aussi cette fuite physique, cette fuite migratoire qui est une forme de réalité, on l'a bien compris, par le biais des associations, reprendre pied, reprendre confiance. On va tout de suite donner la parole à nos auditrices et nos auditeurs.
Allô ?
Allô, c'est Priorité Santé.
Une auditrice de Guinée, justement, Adja, compatriote de Conakry, Rama, qui est en ligne avec nous. Rama, bonjour.
Bonjour.
On est à votre écoute. Rama, parlez-nous de votre vie de jeune aujourd'hui en Guinée.
Bonjour, je suis Rama Toulay Belgi. Je suis étudiante en ingénierie à Conakry. Mm-hmm. Et en fait, j'arrive vraiment pas à trouver... je pense pas, j'ai très peur de trouver, j'ai tellement peur de ne pas trouver la bonne personne, surtout pour le mariage. Mm-hmm. Bon, c'est là, quand tu te rencontres avec une personne, vous restez peut-être 1 mois, 2 mois en contact et tout ce qui s'ensuit, mais en quelques jours, parce que moi je bouge trop, j'étudie, on paye mes études à l'université, je bouge trop, je suis très actif, et bah le gars il t'appelle, il te dit... Barama, tu sais, on paye tes études, ton transport c'est trop, donc je peux pas, c'est trop quoi, je peux pas, j'ai tellement peur de ne pas trouver la bonne personne qui m'aime, mais moi c'est juste que je demande quelqu'un qui m'aime quoi, et je l'aime à retour, pas plus, parce que c'est pas à cause de mes activités, j'ai trop peur.
Aujourd'hui, ce qui vous inquiète, c'est de trouver l'âme sœur, trouver quelqu'un qui puisse avancer avec vous dans la vie, parce que les garçons que vous rencontrez, ils sont pas sur le même rythme que vous, c'est bien ça ?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a, Rama, d'autres choses, hein, au-delà justement de votre vie affective, cette question de l'engagement, bien sûr, c'est essentiel, au-delà de cette vie affective qui vous inquiète au quotidien, qui vous déstabilise d'une certaine manière ?
Oui, c'est le changement climatique. Mmh. ce que je vois en Amazonie, ce que j'ai vu, je vois à la télé en Australie, c'est quelque chose de catastrophique. Et ce que je vois en Guinée, dans mon pays en Guinée, parce qu'en Guinée, on brûle beaucoup les forêts. Là, c'est, quand tu vois, c'est quelque chose de catastrophique. Quand tu vois, on brûle les forêts, on brûle les ordures en Guinée. Et quand tu essaies de parler aux gens, bah, on te dit « Ok, mais on ne t'écoute pas ».
Est-ce que finalement, avec ce que vous dites, vous nous expliquez, les garçons vous comprennent pas vraiment, les adultes, le monde ne vous comprend pas vraiment. Est-ce que finalement, vous avez l'impression de ne pas être à votre place dans ce monde?
Oui, bien sûr, parce que là, regardez, ce changement climatique que nous voyons tous, et c'est quelque chose de catastrophique, nous voyons, et sans agir, c'est quelque chose de... On doit agir très rapidement. Parce que chez moi, en Guinée, il y a trop de sociétés minières. Et ça a quelque chose, ça a un impact dans l'environnement.
Anne-Victoire Rousselet, ce qu'on entend à travers le témoignage de Rama, c'est qu'il y a vraiment cette double préoccupation, la jeune femme en devenir, qui pense à l'amour, et puis la jeune citoyenne. Et tout ça, et ben c'est compliqué à gérer en même temps.
Bien sûr, ça fait beaucoup. Merci à Rama pour son témoignage qui, je pense, est aussi un global. Beaucoup de jeunes pensent comme elle. Alors, ses préoccupations liées à sa vie affective sont complètement normales, dans son âge. En plus, elle a un profil un peu atypique peut-être pour certains hommes à qui ça peut faire peur, les femmes actives, qui aiment, qui étudient, qui sont curieuses. Donc, c'est un profil atypique pour les hommes, que ce soit en Afrique ou en France, là-dessus, pas de souci. Mais concernant les changements climatiques, c'est des préoccupations qui sont encore un peu plus profondes et sociétales. Et c'est compliqué de trouver sa place, comme on le disait tout à l'heure et comme vous l'avez dit, dans ce monde qui change, avec aussi une éducation qui change. C'est-à-dire que Rama a un profil atypique, même s'il devient peut-être de plus en plus fréquent, mais il ne trouve pas sa place dans un modèle qui est, dirons-nous, plus traditionnel. Donc, il y a à la fois cette place sociétale, et puis il y a une place au niveau du monde, une revendication, comment s'inscrire dans l'avenir, qu'il soit personnel, affectif, professionnel, quand on ne retrouve pas finalement de groupe de pairs, quoi, de gens qui nous ressemblent.
Et finalement, ce monde, Hadja Idrissaba, vous n'avez pas l'impression qu'il exige de vous, mais vous donne finalement peu de droits? On vous demande d'être épouse, dans certains cas d'être travailleuse, de tenir la maison, d'être responsable, mais quand il faut prendre des décisions, bah, finalement, on n'a pas forcément l'occasion d'avoir le droit de prendre beaucoup. Si on regarde le climat, on peut s'inquiéter du climat, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gestes individuels, mais la décision politique, il y a aussi tout ce clivage entre la confiance, on va dire, les grands qui décident, et les jeunes à qui on demande toujours de faire encore et encore.
Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est l'un des soucis auxquels nous, les jeunes, on fait face. Merci à Rama pour ce témoignage, à ma sœur d'ailleurs guinéenne. En tout cas, ça fait plaisir de l'écouter parce que je vois en elle l'engagement et son envie vraiment de changer les choses. Et mais je te dis, ma sœur, tu peux bien le faire parce que il suffit juste d'avoir la conviction et d'avoir cette passion de vouloir changer les choses et mets-toi à fond dedans. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu te dis que tu es ingénieur, mais tu peux bien faire changer les choses. Aujourd'hui, chez nous, c'est vrai, nous avons des sociétés minières aujourd'hui qui sont en train de dégrader carrément le climat, l'environnement, avec les usines, des industries qui détruisent notre environnement. Et ça, c'est à la jeunesse de se réveiller, parce que ces gens qui sont là, qui détiennent ces sociétés, c'est des vieux, ici c'est des vieux, enfin c'est des gens, c'est des personnes vieillissantes. Et ils vont laisser cet environnement-là, ils vont laisser ce pays-là détruit carrément.
Il y a une inquiétude par rapport à l'héritage.
À l'héritage, voilà. Donc, c'est à nous de dire non et stop. Donc, vas-y, fonce si tu veux vraiment aider ta société, tu veux vraiment aider ton pays sur des questions d'environnement. On sait qu'il y a moins de jeunes qui s'engagent sur ce sujet-là. Moi, en tout cas, je t'invite à t'engager. C'est pas parce que t'es une jeune fille que tu ne peux pas y arriver. Ton côté féministe, ton côté de féminité, là, c'est ce qui doit être ta force, en fait. C'est ce que tu dois utiliser et tu vas voir quand tu vas lever la voix, lever le ton, ils vont dire, ah, en tout cas, ça commence à être sérieux là, parce que c'est les femmes qui sont en train de se réveiller pour nous dire stop. En tout cas, moi, je t'encourage. Et le côté de côté affectif dont tu fais allusion là,
c'est important aussi,
ouais. C'est super important ce sujet. C'est pas toi seul qui fais face à ce genre de pression. Nous faisons tous face à ce genre de pression, et parce que les hommes pensent que quand t'es instruit ou quand t'es intelligent, quand tu as ton diplôme, ce sont ces genres de femmes qui vont avoir une certaine main sur le foyer, et donc l'homme n'a pas sa place, et c'est la femme qui a son mot à dire, mais pourtant c'est pas le cas. Donc c'est ce complexe aujourd'hui qui existe et qui font peur aux femmes, et qui des fois même il y a certaines femmes qui arrêtent leurs études juste pour faire plaisir à leur mari, et ça c'est anormal. Il faut que les hommes arrêtent vraiment de discriminer les femmes qui ont envie et qui ont des ambitions d'aller jusqu'au bout. Il faut les encourager. Là, ça fera un de plus dans le foyer. Ma chérie, tu auras ton mari. Faut pas t'inquiéter pour ça. Tu as 22 ans, tu as ton diplôme d'ingénieur et tu auras le meilleur. Parce que dis-toi que le meilleur n'est pas encore venu. C'est lui qui t'aime, il t'aimera avec ce que tu as et comme tu es, il t'aimera et même t'encouragera vraiment à aller au-delà de ce que tu es. En tout cas, moi, je pense que le monde est en train de changer. Les mentalités sont en train de changer. Il y a certains hommes aussi, au moins, même si c'est pas tout le monde, mais il y a quand même une minorité d'hommes qui sont là et qui sont conscients que la femme aussi a sa place dans ce monde et que nous devons aussi être vraiment les meilleurs dans notre domaine.
On remercie beaucoup Rama pour ce témoignage. Adja, quand on est déprimé, on vous appelle, après on est reboosté pour quelques heures. Ça donne de l'énergie. Concentré d'énergie. On va rester en Guinée, à Conakry. Beaucoup de jeunes filles qui nous écoutent là-bas, comme Fatou, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, on vous écoute, allez-y.
Bon, moi, mon problème, c'est que tu sors en ce moment pour aller chercher un travail. Mm-hmm. On te demande de l'expérience. Mm-hmm. Mais là, comment avoir de l'expérience? On ne te laisse pas aborder le truc. Par exemple, je pars en fille pour un dépôt de stage. Mm-hmm. Pour acquérir de l'expérience. Tu fais plein de dépôts, tu attends, il n'y a pas d'appel, on ne te rappelle pas.
Fatou, vous êtes étudiante?
Oui, je suis. Non, j'ai fini, j'ai mon diplôme.
Diplômée. Oui, donc maintenant, on vous dit, mademoiselle, allez faire des stages, ayez de l'expérience, mais quand vous laissez votre candidature, c'est bien ça, on ne vous répond pas ou on vous répond négativement?
On ne répond pas.
On vous répond carrément pas.
En ce moment, on me dit qu'il faut avoir des relations, tout ça, mm-hmm. dans des institutions pour décrocher même mon stage, vous voyez?
Oui, je comprends très bien, parce qu'Anne-Victoire Rousselet, ce qu'on entend à travers ce que dit Fatou, c'est la contradiction des exigences. D'un côté, il faut, mais de l'autre côté, on ne propose pas.
Exactement, il y a un paradoxe, il y a des injonctions, on vous demande de trouver ci ou ça, on vous demande d'avoir de l'expérience. En psychologie, c'est vrai aussi en France, hein, on vous demande d'être expérimenté, donc on prend pas les psychothérapeutes qui sortent du diplôme, et donc compliqué de trouver de l'expérience. Et en effet, c'est le réseau qui fait la différence. Alors moi, je peux vous livrer un petit peu la façon dont j'ai fonctionné aussi, c'est-à-dire que je suis allée à des réunions, des conférences.
On rencontre des gens.
Voilà, des choses gratuites où on rencontre des gens, parce qu'on n'a pas les moyens quand on vient d'avoir son diplôme, et on rencontre des gens, on discute. Alors il faut apprendre à sortir un peu de sa timidité et puis aller vers l'autre, mais c'est une des manières qu'on peut trouver, ou de faire du bénévolat, c'est la pirouette. Malheureusement, avant de pouvoir trouver un travail. En France, c'est ça depuis très longtemps maintenant, hein. Et c'est le paradoxe aussi qu'on évoque entre des diplômes et le vivier, le bassin d'emploi.
Fatou, vous voulez réagir? Allez-y.
Par exemple, moi, je fais la chimie. Mm-hmm. Je veux expérimenter ça, quoi. Par exemple, je pars dans des usines. Dans les associations, je crois pas qu'on peut me donner des notions de chimie.
Bien évidemment, c'est pas dans le milieu associatif. Par contre, c'est vrai, c'est qu'on met aussi les adultes et les responsables devant les choix qu'ils font. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont à l'écoute de Priorité Santé, vous recevez des CV, vous recevez des demandes de stage, vous dites oui, les jeunes, c'est un peu des feignants, etc. Encore faut-il leur répondre, encore faut-il leur respecter, encore faut-il leur donner leur chance, ouvrir la porte. C'est toujours bien de demander aux jeunes d'en faire toujours plus, mais nous aussi, en tant qu'adultes et en tant que parents, il faut répondre à nos responsabilités. Fatou, vous faites de la chimie. C'est évident que vous cherchez vers un labo, vers une entreprise, vers des gens qui sont donc spécialisés dans les sciences. Tout à l'heure, on avait Rama en ingénierie. On félicite ces filles qui ne sont pas engagées tout de même vers des créneaux faciles. Il serait peut-être bien que tous ceux qui attendent toujours plus des jeunes leur donnent aussi des réponses. Parce que, Adja, vous devez aussi faire face à cela. On vous demande d'être à la hauteur et en face, certains adultes ne sont pas forcément à la hauteur.
Clairement pas. Et ensuite, c'est je sais pas comment je vais dire ça, c'est une forme d'hypocrisie, désolée du terme, parce qu'on pense que les fautes ou les erreurs ne viennent que des jeunes. Pendant qu'on oublie que c'est ceux qui sont là derrière, qui se font appeler experts, sont passés par là et on apprend. C'est-à-dire au fur et à mesure, on apprend. Mais pour le cas de Fatou, je dirais qu'il y a une sorte d'inadéquation entre ce qu'elle a fait et comme étude et sur le marché d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, si elle a fait la chimie, il ne faut pas qu'elle oublie. Certes, on a besoin d'avoir de l'expérience et c'est un souci que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Il n'y a vraiment pas d'équipement dans nos universités. Et donc, pour faire la pratique, on ne fait que la théorie. Par exemple, des études comme la chimie, on ne vient qu'on cite, on dicte les leçons pour toi et toi, tu apprends ça.
Mais il n'y a pas de labo.
Il n'y a pas de labo. Et donc, ce que je vais demander à ma sœur, il y a des entreprises, des sociétés, vas-y, fonce. Si tu as ta place, tu seras. Et quand après, tu as du mal à t'intégrer, essaie de te trouver, de créer toi. Mais par exemple, aller vers l'agriculture et entreprendre. C'est-à-dire, la chimie, c'est de transformer des produits locaux. Mais si tu as les formules là, tu peux toi-même aller vers l'agriculture, tu entreprends et puis tu crées ta propre entreprise ou ta propre société.
Fatou, excusez-moi, vous dites ils ne répondent pas, vous les avez relancés. Quand justement, moi je pense que c'est là aussi sur lequel il faut agir, il ne faut pas baisser les bras. Ils ne vous ont pas répondu, il faut les relancer.
Clairement.
Oui, alors. Anne-Victoire Rousselet, vous vouliez réagir là-dessus.
Oui, puisque j'accompagne beaucoup de jeunes dans une situation qui est proche. Et en général, voilà, on envoie la candidature. Quand on l'a envoyée, 15 jours après, on relance. Parce qu'en effet, les gens, malheureusement, ne répondent pas. Parce que c'est pas un poste à temps plein, en fait, de s'occuper des stagiaires et de recrutement. Donc, c'est en plus du reste. Et c'est pas correct, mais ils répondent pas.
Mais ça veut dire là aussi qu'il faut travailler sur la confiance et la persévérance.
Exactement. Et faut rappeler, il faut pas lâcher. Vous attendez une réponse. Parce que c'est de la correction, c'est de la considération. Vous avez envoyé une lettre, vous attendez une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Vous relancez 15 jours après, vous lâchez pas. Et c'est gage aussi de réussite parce que on aime les profils tenaces.
Et puis ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne veulent pas de vous, c'est peut-être simplement qu'ils vous ont oublié. Donc faut se faire connaître, faut se rappeler au bon souvenir des employeurs possibles. Merci Fatou pour ce témoignage. On va poursuivre notre échange dans quelques minutes, juste après cette pause musicale avec Georgia Smith et Burna Boy, Be Honest.
Priorité santé. Sur RFI.
I know you want. It's only when you're lonely, yeah. You see, you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise, so why don't you stand up, baby, yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you.
Nous nous retrouvons dans Priorité Santé avec nos deux invités. Témoignages, questions, jeunes auditeurs, leurs ressentis, leurs réactions, quel projet d'avenir dans une société en crise. Avec nous toujours Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute, Adja Idrissaba, étudiante militante, et nos auditrices avec nous en ligne de RDC, République démocratique du Congo, bien sûr, Kinshasa, c'est Julia Britney. Bonjour.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute. Allez-y, parlez-nous aujourd'hui de votre vision des choses. Vous envisagez demain comment ?
Oui, en fait, j'ai 24 ans. Mm-hmm. Je suis étudiante en deuxième communication sociale. Mm-hmm. Dans le futur, j'aimerais créer ma propre radio.
De la concurrence.
C'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur, je vous rassure. C'est dur de se trouver un travail à Kinshasa, surtout dans les secteurs de journalisme et communication. Mm-hmm. Vous savez, mon pays est vraiment en situation de crise sur presque tous les plans, surtout sur le plan socio-économique. Alors moi, je trouve mieux. Je trouve que si vous avez peur, la peur de se trouver un emploi freine les gens. Il faut croire en soi-même, croire à ses capacités, savoir exploiter ses compétences. Vous savez, si vous dites seulement que c'est dur d'être accepté dans une entreprise, surtout si vous n'avez pas des relations avec cette entreprise-là, on se bloque soi-même. Il faut prendre les choses à bras les corps. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Alors pour y parvenir, je trouve aussi qu'il faut être accompagné de personnes qui pensent comme vous, des personnes qui sont positives dans leurs pensées.
Julia Britney, justement, on sent en vous une battante, hein, quelqu'un de dynamique et avec beaucoup d'espoir. D'après vous, qu'est-ce qui vous a permis d'être aussi forte, tout simplement ? C'est quoi ? C'est vos amis ? C'est votre famille ? C'est quoi ? Ou c'est votre nature ?
En fait, non seulement c'est ma nature, parce que malgré mon âge, j'ai fait beaucoup de demandes d'emploi qui n'aboutissent à rien. Il n'y a pas de résultats. Alors je me dis, j'ai des compétences, je peux croire en moi. Alors faisons quelque chose qui me sera utile, qui sera mieux pour moi, le fait que de ne pas perdre ma passion, ma profession, raison pour laquelle je trouve que je dois créer mon propre entreprise pour être à l'aise. Parce que courir derrière les gens n'apporte à rien. Vous voyez, ici c'est vraiment difficile de se trouver un travail.
Il faut compter sur soi-même. Anne-Victoire Rousselet, on entend Julia Britney qui décrit à la fois très lucide cet environnement, on va dire quasi hostile, mais malgré tout, là-dedans, elle a trouvé sa place et elle veut en découdre, hein, pacifique, sympathique, mm-hmm. mais elle a sa place. Comment justement on construit cette force, cette forme de résilience, il faut le dire, parce que le cadre n'est pas facile, malgré tout, on garde l'espoir. Comment on fait ?
Je pense qu'il y a une partie en effet de l'éducation, il y a une partie d'elle-même bien sûr, et des expériences de vie. La résilience, vous l'évoquiez, c'est lié aux expériences de vie. Plus on a été éprouvé, et plus on a surmonté, et plus on est forte. Donc, fort ou forte. Mais ce qui est très intéressant dans votre témoignage, c'est que vous avez trouvé, vous savez en vous-même où vous voulez aller. Et comme vous avez compris que l'environnement ne vous le donnerait pas, vous vous dites, je vais le construire pour moi. Et en effet, c'est la meilleure façon de pouvoir percevoir des perspectives, un peu comme vous le disiez, Adja, que faut peut-être que notre petite chimiste se lance dans l'agriculture et construise sa structure. Parce qu'en réalité, l'environnement tel qu'il est, les systèmes tels qu'ils sont en train de changer, sont instables. Et donc, la meilleure façon de construire une stabilité, parce qu'on a besoin de se projeter, c'est de construire son propre projet qui ne va dépendre presque que de nous.
Et en même temps, on entend Julia Britney, cette détermination, Adja Idrissaba. Quand on est comme ça, une battante, est-ce qu'il n'y a pas justement des critiques de la part des adultes qui vous disent « mais arrête de te prendre au sérieux, retourne un petit peu à ta place pour se rabaisser ». Finalement, ils attendent des jeunes qu'ils soient des battants, mais quand ils sont des battants, ils leur disent « reste à ta place et contente-toi d'être cette petite chose, ce petit bibelot joli à regarder ».
Clairement, parce qu'ils ont peur de perdre leur place, parce que à force de voir des jeunes comme ça, c'est-à-dire des jeunes convaincus qu'ils peuvent apporter quelque chose, ça devient un risque pour eux. Et au moment où nous sommes actuellement, avec cette sorte de conflit qui existe entre les plus âgés et les jeunes, c'est-à-dire les jeunes refusent de céder, enfin les plus âgés refusent de céder la place aux plus jeunes, pendant qu'on dit que nous sommes le présent, c'est pour cette raison qu'ils nous projettent vers l'avenir, et nous on refuse carrément ce discours qui nous dit qu'on est l'avenir. Par exemple, elle, Julia, c'est une battante. Elle a 24 ans, mais aujourd'hui, elle a vraiment des objectifs. Et on veut que tous les jeunes soient comme elle, qu'ils soient convaincus, qu'ils aient confiance en eux et qu'ils aient un projet. Et ne pas attendre qu'on te donne quelque chose, toi-même, va le chercher. Ne pas attendre ce que l'État doit te donner, mais que toi-même tu apportes quelque chose pour ton état parce que tu as fait des études quand même. Donc tu sais comment, même s'il y a des obstacles, elle a commencé par dire que c'est très dur à cause de l'entourage, c'est très dur à cause de ce qu'on te dit, à cause des étiquettes qu'on te colle dessus, on dit que t'es une rebelle, on te traite de personne mal éduquée des fois, parce que quand tu tiens certains discours ou que tu es véridique des fois on a besoin des personnes dans certaines structures ou dans certaines entreprises, des jeunes qui sont mous, c'est-à-dire que qui sont bénis, oui, quand on te dit ça, c'est ça tu fais, même si tu n'es pas d'accord et on sait la vérité, c'est quoi, tu es béni, oui, donc on n'aime pas des personnes véridiques et assez battantes et militantes comme Julia Britney tout à l'heure, et qui, c'est et important.
Avec aussi beaucoup de lucidité. Carrément. Merci beaucoup de cet appel. On va prendre un auditeur, là aussi, République démocratique du Congo, mais on passe de l'autre côté du pays, hein, on part pour l'Est, pour Goma. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, allez-y.
Oui, merci Caroline. Au fait, moi, j'ai 26 ans. Mm-hmm. Je finis, il y a 4 ans que je finis mon bac plus 5. Je suis en train de chercher le travail depuis. Donc j'ai eu à faire des petits travails, mais ce n'était vraiment pas des grands travails. Et là, apporte une inquiétude, mais j'arrive à combattre et je ne relâche plus. Je prends, moi, ma source dans ma foi. Bon, en fait, j'ai la foi. Mm-hmm. Et c'est là, c'est ça qui m'aide beaucoup à avoir beaucoup de force. Et j'ai mes ressources trop dans ça, afin de continuer de combattre.
Quatre ans, vous dites, Nathanaël, excusez-moi, vous dites 4 ans de recherche. Dans quel secteur, précisément, est-ce que vous cherchez du travail?
Bon, généralement, moi, je voulais chercher dans la fonction publique, mais je ne suis pas qui casé dans ça. Je cherche partout alors. Mmh. Puisque je n'ai pas vraiment trop de choix. Et puisque les marchés sont trop fermés, il faudrait avoir des fois des relations. Et des fois, c'est de la connaissance ne suffit pas. C'est ça. Donc,
du coup, vous faites des petits boulots, ce qu'on appelle des petits boulots, Nathanaël?
Oui, des fois, je fais des petits boulots. Mais ce n'est vraiment pas ça que j'ai toujours voulu et ce que j'ai...
Et vous disiez, la religion vous porte, votre foi, malgré tout. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes tenté par des idées grises, un petit peu de déprime, ou vous gardez le cap?
Des fois, je déprime. Beaucoup de fois, je déprime, surtout quand je parle, quand on en parle avec d'autres amis. Et ils n'ont pas choisi, ils ont choisi un autre chemin. Et ils sont dans l'alcool, des fois, ils exagèrent, ils sont dans les sexes. Ça me déprend de foi, mais j'arrive quand même à tenir. Et par ma foi seulement, je pense que ça ira. C'est vraiment ça la plus grande force qui m'a aidé, la foi.
C'est ce qui vous, êtes aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage, Nathanaël. Ce qu'on entend dans cet entourage des personnes qui ne sont pas aussi solides que Nathanaël et qui sombrent, qui dépriment, bien sûr, aucune vision morale sur ses attitudes, parce qu'avec tout ce qu'on a compris du contexte, des questionnements, des portes qui se ferment, ça arrive partout dans le monde par rapport à cette jeunesse, Anne-Victoire Rousselet. Et c'est d'ailleurs justement une grosse partie de votre travail, tendre la main et puis apporter votre expertise à ces jeunes qui, eh bien, que le monde des adultes n'épargne pas et qui se retrouvent d'autant plus fragilisés.
Dans le contexte un peu que décrit Nathanaël, avec l'amorce de certaines idées parfois difficiles, il a développé cette stratégie qui est la foi. En effet, le travail qu'on va pouvoir faire avec les jeunes, c'est retrouver quelque chose dans lequel ils vont avoir une forme de contrôle et un peu ce qu'on disait, de retrouver une forme de projection. Alors, ça peut très bien être d'ailleurs d'autres formes d'activité. Je pense à une jeune femme que j'ai vue hier qui est franchement déprimée, angoissée et qui, on a décidé que pour l'instant on suspendait la question éducative et qu'on se tournait vers des choses qui l'épanouiraient, lui faire du bien et qu'elle pourrait contrôler, comme la couture. Voilà, des activités manuelles qui favorisent l'estime de soi, qui augmentent parce qu'on produit, on voit ce qu'on fait, on voit qu'on progresse. Vous voyez, toutes ces activités-là, manuelles, artistiques, augmentent l'estime de soi, redonnent confiance et une assise pour aller vers ce monde difficile, un peu hostile, et parce qu'il est compliqué et il est très paradoxal, hein. L'injonction de vous allez devoir porter les générations anciennes, alors même qu'on vous prévoit pas grand-chose en termes d'avenir,
faire des c'est compliqué. Faire des études compliquées et se retrouver à faire un petit boulot, à tenir un petit stand sur le bord d'une route, c'est quand même quelque chose de très difficile au niveau de l'estime de soi.
Bien sûr, et on le retrouve en France, hein. Moi, j'avais un ami qui a une thèse d'histoire qui n'était pas pris chez Decathlon, il voulait gagner sa vie. Et...
pour vendre des articles de sport et sans marque, voilà.
Pardon, vendre des articles de sport. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une question de l'adéquation entre le système éducatif et les ressources qu'on peut proposer et le système qui est en train d'évoluer, le système économique, social. Qu'est-ce qu'on peut proposer avec un diplôme de chimie, d'histoire, voilà.
Il nous reste 2 minutes, Hadja Idrissa Bah. Je vous donne le temps parce que je sais qu'une fois qu'on vous lance, on a du mal à vous arrêter. Justement, on voit les deux réponses, les deux réactions des jeunes auditeurs et auditrices qu'on a entendus. Julia Britney qui reste dynamique face à l'adversité. Nathanaël qui se replie d'une certaine manière sur sa foi, sur ses croyances pour trouver une assise lui aussi. Ça veut dire que les jeunes ont des ressources et les jeunes ont en eux justement une force pour ne pas se laisser sombrer.
Exactement, et je pense que nous devons valoriser ces ressources parce que aujourd'hui la jeunesse doit affronter les réalités, malheureusement les réalités du terrain, parce que aujourd'hui il y a un manque d'emploi et cette inadéquation aujourd'hui fait que certains jeunes se font du mal eux-mêmes, parce que si toute la famille, la société compte sur toi et que tu as fait des études assez dures, brillantes, ça devient vraiment un risque. Moi je pense que aujourd'hui, il faudra résoudre cela dès la base. Il faut que nos autorités, il faut que des personnes, les acteurs qui sont censés créer ces espaces pour les jeunes, qui se mettent maintenant là à l'appui. Parce que aujourd'hui, tu vas voir un groupe de jeunes qui déstressent. Et après, ça va encourager la génération suivante à ne pas prendre en considération les études et à bafouer et dire tant mieux, même si j'étudie, je sais que je n'aurai pas de boulot. Donc, tant pis, je ne vais pas étudier, j'en ai pas besoin. Donc, c'est vraiment risqué, c'est grave. Donc, moi, je pense qu'il faut que la jeunesse vraiment reprenne son destin en main.
C'est une question de morale, ne pas démoraliser les enfants qui seront aussi les jeunes de demain. On vous remercie beaucoup. Hein. On aura eu encore beaucoup de choses à dire, bien sûr, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour toutes ces réponses aux questions et puis ces témoignages. Anne-Victoire Rousselet, je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Merci à Hadja Idrissa Bah, hein, présidente fondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée. Et bien sûr, Hadja, on vous retrouve le mois prochain dans Priorité Santé.
Priorité Santé.
Oui. Et là, il arrive à respirer comme ça. Même s'il a la tête entre les seins. Ah oui, dans le creux de la poitrine. Vraiment bien, bien serré. Hein. On voit même pas sa tête, en fait. Enfin, on voit le dessus de sa tête, mais on ne voit pas son visage.
Sur RFI.
Et à présent, on retrouve le troisième volet de notre série, Accueillir son bébé, reportage de Charlie Dupio, réalisé dans la région de Kara, au nord du Togo, avec le soutien du fonds Muskoka. Aujourd'hui, les soins kangourous, cette méthode pour les nourrissons prématurés, contact peau à peau, expérimentée par ces deux jeunes mamans. Elles ont accouché au 7e mois de grossesse seulement, l'une de jumeaux, l'autre d'un garçon. Et pour les accompagner, il y a ces 3 sages-femmes, Marthe Aoulimi, Jeannette Yovo et Simala Sommé.
Ça a commencé à me faire bas ventre, mal. Et je suis venue à l'hôpital là. Et j'ai accouché prématuré.
Vos jumeaux, ce sont des garçons?
Garçons et filles. Joseph et Joséphine.
Et donc là, ils ont 2 mois. Vous en tenez un qui dort paisiblement. Et donc ils sont nés à 7 mois,
oui.
C'est ça?
Oui. Comme ils étaient tout petits là, je me suis inquiétée que s'ils vont rester en vie. Et on m'a dit que comme ils n'ont pas le poids qu'il faut là, ils peuvent mourir, qu'ils ne peuvent pas lutter contre les maladies.
Ils pesaient combien au début?
1400.
C'est peu, hein, madame la sage-femme.
Normalement, l'enfant à la naissance doit avoir un poids de 2 kg, supérieur ou égal à 2 kg 500. 1 kg 400, c'est un enfant de petit poids, donc il doit nécessairement bénéficier des soins kangourou.
On m'a dit de les mettre en position kangourou. Je me suis déshabillée et je les ai mis sur ma poitrine et j'ai attaché par au dos.
Un bébé sur chaque sein? À même la peau, en fait.
Je les ai attachés pour les contaminer ma chaleur, pour qu'ils grossissent et ils grandissent vite.
Là, ces jumeaux ont 2 mois. Pendant combien de temps ils doivent bénéficier des soins kangourous?
Bon, à 2 kilos déjà, c'est déjà bon. Lorsqu'on surveille l'enfant jusqu'à 2 kilos.
Et là, ils pèsent combien, vos jumeaux, madame?
2450. La fille et garçon, 2000. Là, ils vont bien. Ils ont pris le poids maintenant.
Et bonjour madame.
Bonjour madame. Moi je m'appelle madame Amivon. Mon prénom c'est Wassé.
Alors vous avez un bébé qui est encore en position kangourou.
C'est ça. Bon, je lui donne le nom Mathias.
Et quel âge il a?
10 ans, c'est 2 semaines.
Vous avez trouvé une technique bien pratique puisque vous avez une veste.
Oui, c'est pour me protéger moi-même le froid. Donc si j'ai froid et que le lait, donc l'enfant aussi tête, il aura froid. Donc c'est juste pour me protéger et pour le protéger aussi. Il est entre mes seins et les bras sous les seins, c'est tout juste pour se réchauffer.
Il a un petit bonnet là sur la tête.
Oui, puisqu'il ne peut pas foncer la tête dans le pain.
Et là, vous le gardez combien de temps par jour comme ça?
Bon, disons toute la journée. Tu le fais matin, ça fait jusqu'à... Bon, si tu veux aller te doucher, tu vas l'enlever. Et tu te douches, après la douche, tu le fais encore. Puisque c'est l'eau chaude, nous douchons. Ça lui permet encore la chaleur, quoi.
Et la nuit?
La nuit, bon, moi, je ne le fais pas la nuit. Hein. J'ai bien peur, peut-être en tournant autre. Tu peux être couché sur lui ou autre. Donc.
Et alors, c'est votre premier bébé?
Oui, mais grâce au side-form, je vois que ça va.
Il y a un animal qu'on appelle kangourou. Qui porte aussi ses enfants de cette manière-là.
Qui a une poche.
C'est pour ça, oui, c'est pour ça qu'on lui a donné le nom kangourou. Quand on a eu la formation, on l'a mise en pratique en même temps. Depuis 2012, j'ai été formée par l'UNICEF. Au début, c'est contraignant pour les mamans.
Ça vous a contrainte, vous?
Bon, c'était difficile au début parce que j'étais seule et la lessive, les ménages, je le fais. C'est un peu difficile pour moi.
À quoi ça sert alors les soins kangourous, vous qui êtes sage-femme?
Au fait, ce sont des enfants prématurés. Donc souvent, c'est l'hypothermie qui les tue. Donc cette méthode kangourou leur permet d'avoir de la chaleur maternelle. Ça les réchauffe, ça les permet de les mettre à l'abri de l'hypothermie.
C'est vraiment l'hypothermie qui est en danger pour ces enfants-là?
Oui, oui, oui. Au fait, chez nous ici, d'abord, il y a le cadre. Le cadre de notre salle néonato, normal, ce sont des enfants qui doivent être mis dans des couveuses. Mais nous n'en avons pas assez pour mettre tous les enfants.
Il y a combien de couveuses ici, dans ce CHU?
Peut-être 2 ou 3, vous allez voir en salle là-bas, alors que nous avons beaucoup d'enfants.
C'est très peu.
C'est la solution de repli, en fait, les soins kangourous.
Et ce n'est pas coûteux. Ok, nous avons trouvé ça comme une très bonne méthode.
Comme on n'en a pas, on n'a pas de couveuse, on se contente de cette méthode. Et puis ça marche.
Ça a sauvé beaucoup de nouveau-nés prématurés. Beaucoup.
Un reportage signé Charlie Dupio et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la prépare. Ah, c'est tout ça, Maki, Ophélie Lassène, Victor Hull, aujourd'hui Laurence Nau. Lundi, on va parler de l'asthme, affection respiratoire chronique et problème de santé publique. On se retrouve lundi.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner où que vous soyez pendant ces 366 jours. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.